VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 9 novembre 2020. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. En Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel a validé la réélection d'Alassane Ouattara. En Guinée, la journée ville morte demandée par l'opposant Sélouda Diallo a été peu suivie. Nouveau bombardement de l'aviation éthiopienne ce lundi dans la région dissidente du Tigré. Les camps rivaux en Libye ont entamé des pourparlers en Tunisie sous l'égide de l'ONU. Joe Biden entame la transition américaine et forme ses équipes sans attendre que Donald Trump accepte sa défaite. Après le journal, ce sera l'économie et les sports. On commence par l'actualité aux États-Unis. Joe Biden, le président élu des États-Unis, selon les projections, a commencé à organiser sa future prise de fonction, faisant fi de Donald Trump qui refuse toujours d'admettre sa défaite. Le premier acte de la transition du démocrate a été de mettre en place une cellule de crise chargée de lutter contre le coronavirus, dont il a dévoilé le nom des membres ce lundi. Accompagné de sa future vice-présidente Kamala Harris, il devait s'exprimer depuis sa ville de Wilmington, dans le Delaware, sur la feuille de route qu'il entend suivre dès son entrée à la Maison-Blanche prévue le 20 janvier. Bien que Joe Biden soit d'ores et déjà désigné comme vainqueur de l'élection présidentielle par les médias américains, les résultats dans quatre États tardent encore à se faire connaître. Il s'agit de la Caroline du Nord, la Géorgie, l'Arizona et l'Alaska. Le président américain Donald Trump a limogé le secrétaire à la défense Mark Esper, qui sera remplacé par le directeur du Centre national de contre-terrorisme Christopher Miller. Dans un tweet, M. Trump a remercié M. Esper deux jours après l'annonce de sa défaite face à Joe Biden. En Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel a validé la réélection d'Alassane Ouattara. Il est proclamé élu au premier tour avec 94,27% des voix, a déclaré le président du Conseil, Mamadou Koné, indiquant n'avoir relevé aucune irrégularité grave sur les bureaux pris en compte. L'opposition a boycotté le scrutin du 31 octobre et empêché sa tenue dans 5000 bureaux qui n'ont pas été inclus dans le corps électoral. Monsieur Koné a également souligné qu'aucune réclamation n'avait été déposée. Par ailleurs, des affrontements intercommunautaires ont fait 3 morts et 41 blessés à Daoukro en Côte d'Ivoire, fief de l'ancien président Henri Konan Bédier. L'opposition avait appelé à une journée de mobilisation qui a été émaillée d'incidents dans plusieurs villes du sud du pays. En Guinée, la journée ville morte demandée par l'opposant Sélouda Diallo a été peu suivie à Conakry. Arrivé deuxième à la présidentielle du 18 octobre avec 33% des voix, le candidat de l'UFDG revendique toujours sa victoire. Le point avec Zakaria Camara.
Pour Sélouda Diallo, cette journée ville morte est une action de protestation contre ce qu'il a qualifié dimanche dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux d'hold-up électoral qui a servi à l'élection d'Alpha Condé. Mais pour l'opposant, c'est aussi une manière d'exiger, selon ses mots, le respect de la vérité des urnes. Cet appel du candidat de l'UFDG intervient 48 heures après la publication par la Cour constitutionnelle des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 18 octobre. Dans la banlieue de Conakry, plusieurs boutiques n'ont pas ouvert, comme c'est le cas depuis le début des violences post-électorales. Les forces de l'ordre visibles à mains endroits de la capitale ont empêché toute tentative visant à perturber la circulation routière. L'administration, les banques, les stations-service et une partie du commerce ont fonctionné normalement ce lundi. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
L'ancien président centrafricain François Bozizé a déposé sa candidature à la présidentielle du 27 décembre. Si son dossier est retenu, il pourrait être le principal adversaire du président Faustin Archange Touadéra. Le code électoral exige une année de résidence dans le pays lors du dépôt d'une candidature. Parmi les candidats figurent l'ancienne présidente de transition Catherine Samba-Panza et le président démissionnaire Michel Djotodia. Les ex-premiers ministres Anissé Georges Dologuélé et Martha Zighele ont également déposé leur dossier. L'aviation éthiopienne a mené de nouveaux bombardements aériens ce lundi dans la région dissidente du Tigré, tandis que le premier ministre Abiy Ahmed a assuré que l'opération militaire sera bientôt terminée. Le point avec Eric Manirakiza.
Notre opération de maintien de l'ordre en tant qu'État souverain capable de gérer ses affaires internes se terminera sous peu en mettant fin à l'impunité existante, a écrit aujourd'hui sur Twitter Abiy Ahmed. L'aviation éthiopienne a mené lundi de nouveaux bombardements sur des zones choisies du Tigré. Monsieur Abiy a lancé le 4 novembre une intervention dans cette région du nord en réaction à des attaques de deux bases militaires fédérales par les forces et des autorités tigréennes qui les ont démenties. La tension entre le gouvernement fédéral et les autorités régionales du Tigré s'est considérablement accrue depuis l'organisation en septembre d'élections régionales qualifiées d'illégitimes par Addis Abeba. Le Front de libération des peuples du Tigré, parti qui dirige la région et qui a dominé le pouvoir central en Éthiopie pendant près de 30 ans, jusqu'à ce que M. Abiy devienne premier ministre en 2018, défie depuis plusieurs mois l'autorité fédérale. Ses dirigeants disent être injustement visés par des poursuites anticorruption, écartés des postes de responsabilité et accusés d'être responsables de tous les maux du pays. De son côté, le premier ministre éthiopien accuse le Front de libération des peuples du Tigré de chercher à miner son agenda de réforme.
Les Libyens ont entamé ce lundi des pourparlers à Gamarth, près de Tunis, sous l'égide de l'ONU qui se dit optimiste d'aboutir à un accord sur un gouvernement unifié. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Ces pourparlers réunissent 75 Libyens de tous les bords sélectionnés par l'ONU, y compris parmi les principaux camps rivaux, le gouvernement d'union nationale et le pouvoir incarné par le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est du pays. Le consensus est réalisable si les forces étrangères s'abstiennent de toute ingérence en Libye, a déclaré le président tunisien Kais Saied à l'ouverture des travaux. Le but des pourparlers est de choisir un conseil présidentiel de 3 membres représentant les 3 grandes régions libyennes et un chef de gouvernement chargé de former un cabinet unifié. Pour le président tunisien, ceux qui seront impliqués dans la transition doivent s'engager à ne pas se présenter aux élections générales, rédiger une constitution provisoire et fixer les dates des prochaines élections. Il y a là une occasion pour mettre fin au conflit tragique, a dit dans un discours enregistré le patron de l'ONU, Antonio Guterres, qui a été diffusé au début de ses pourparlers.
La pandémie de COVID-19 continue de progresser dans le monde. Le dernier bilan fait état de plus de 50 millions de cas confirmés et plus de 1 250 000 morts. Le vaccin développé par Pfizer est dit efficace à 90%. Le point avec Mohamed Oumfa.
Les États-Unis restent le pays le plus touché avec plus de 230 000 décès pour près de 10 millions de cas recensés. La Russie a enregistré un nouveau record de contamination quotidienne avec près de 22 000 cas. Moscou dépasse pour la première fois le pic du mois de mai. En Italie, la situation est hors de contrôle, ont jugé des médecins qui demandent au gouvernement un confinement total pour endiguer la deuxième vague. 4 régions ont été placées en zone rouge par le gouvernement et une 5e a décidé de s'autoconfiner dimanche soir. Une eau d'espoir cependant, le vaccin développé par Pfizer est efficace à 90% selon une annonce de l'entreprise pharmaceutique américaine. En attendant, le directeur général de l'OMS a appelé ce lundi la communauté internationale à ne pas fermer les yeux et à retrouver le sens du bien commun face à la pandémie de COVID-19. Il a déclaré, et je cite, « Nous pourrions être fatigués du COVID-19, mais il n'est pas fatigué de nous ».
L'ancien président du Kosovo, Hashim Thaçi, inculpé de crimes de guerre lors du conflit contre les forces serbes, a plaidé non coupable lors de sa première apparition devant un tribunal spécial à La Haye. Thaçi a démissionné le 5 novembre à la suite de son inculpation pour crimes perpétrés durant la guerre d'indépendance. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée par John Linden.
Le résultat net de Bank of Africa Côte d'Ivoire, filiale du groupe bancaire du même nom, a connu une hausse de 23,3% au terme du troisième trimestre 2020 comparé à la même période de 2019. Ce résultat net s'est établi à un peu plus de 11 milliards de francs CFA au 30 septembre 2020 contre 9 milliards de francs CFA au 30 septembre 2019. Starbucks, la chaîne américaine de distribution des cafés, compte lancer 8 nouveaux points de vente en Afrique du Sud d'ici à la mi-décembre. Ces points de vente seront notamment déployés à Johannesburg, Pretoria ou encore Cape Town. Starbucks va s'allier avec le consortium Rand Capital Coffee, qui a racheté en novembre 2019 les droits de distribution exclusifs de la marque auprès du franchisseur des restaurants Test Holdings. Les bourses mondiales exultent ce lundi avec l'annonce en milieu de journée par les laboratoires Pfizer et BioNTech que leur vaccin serait efficace à 90% contre le COVID-19. La même euphorie était sur le point de gagner les États-Unis où l'indice Dow Jones s'annonçait en hausse de plus de 5,6%. Cette annonce intervient alors que les États-Unis, comme l'Europe, font face à des records de nouvelles contaminations face à cette deuxième vague qui pourrait sérieusement escamoter la reprise économique.
À présent, les sports présentés par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Le milliardaire sud-africain Patrice Motsepe s'est porté candidat à la présidence de la Confédération africaine de football en mars prochain, a annoncé la Fédération sud-africaine de football. Ancien avocat Patrice Motsepe, beau-frère du président sud-africain Cyril Ramaphosa, a fait fortune dans l'exploitation de mines. Il possède les Mamelodi Sundowns, club basé à Pretoria, qui fait depuis plusieurs années partie des 10 meilleurs clubs africains et a réalisé le triplé en Afrique du Sud la saison passée. Il est la personne la plus apte que nous pouvons présenter pour ce poste. Nous ne voulons plus de problèmes éthiques à la tête de la CAF, a déclaré Danny Jordan, président de la Fédération sud-africaine de football. Cette candidature de Patrice Motsepe s'ajoute à celle de l'Ivoirien Jacques Anouma et du Malgache Ahmad Ahmad, actuel président de la CAF, qui brigue un second mandat. Au Ghana, le sélectionneur des Black Stars, Charles Akounor, enregistre des incertitudes avant la double confrontation contre le Soudan éliminatoire de la CAN 2021. Thomas Partey, Harrison Hafoul, Baba Idrissou, Moubarak Wakasso, Jamie Lewiling, qui devait honorer sa première convocation chez les Black Stars,
ont déclaré forfait.
Andrew Kéré, Yedom, Majib Eshimeru, Joseph Atama Leroy, Afiyi Akak, Kwadjo Amoako, Christopher Nete et Clifford Aboakye ont été appelés en renfort en tête de son groupe des éliminatoires de la CAN 2021 avec 6 points. Le Ghana affronte le Soudan le 12 novembre à Cape Coast avant le retour le 17 à Khartoum. Le sélectionneur Aliou Cissé et les Lions de la Teranga comptent également des blessés dans leur rang avant d'affronter la Guinée-Bissau en éliminatoire de la CAN 2021. Hier, la Fédération sénégalaise de football a confirmé les absences de Famara Diédou et Saliou Cissé qui ont contracté le COVID-19. En plus des deux, Ousseynou Ba, Baldé Keïta et Idrissa Ganagé sont absents pour cause des blessures. Sada Tioub, Nabi Sarr, Formose Mendy et Alpha Dionkou ont été appelés en renfort. Le gardien Binguru Kamara de Strasbourg est aussi incertain et donc Babacar Fall, des moins de 20 ans, est en stand-by. Les Lions de la Teranga sont en tête de leur groupe avec 6 points et feront face à la Guinée-Bissau le 11 novembre à Thiès avant le retour le 15 à Bissau. Les mondiaux 2021 de gymnastique artistique que devait initialement accueillir Copenhague en octobre seront organisés au Japon à Kitakyushu, a annoncé la Fédération internationale de gymnastique. La capitale danoise avait renoncé début juillet à accueillir la compétition. Ces mondiaux interviendront ainsi 3 mois après les Jeux olympiques de Tokyo, décalés d'un an en raison de la pandémie de Covid-19 à l'été 2021.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Le président Donald Trump continue d'insister sur des irrégularités lors de l'élection présidentielle américaine. Le candidat Joe Biden, vainqueur selon les projections de la Voix de l'Amérique, affirme qu'il va créer cette semaine un groupe de travail sur le coronavirus. Le point dans un reportage de Michel Kinn. Le récit est de Lionel Gaïma.
Les États-Unis restent très divisés depuis l'élection présidentielle du 3 novembre. Presque une semaine après, Joe Biden déclare qu'il entame dès maintenant sa transition vers le pouvoir. Le président Donald Trump, qui ne s'avoue pas vaincu, dit que les votes sont toujours comptés dans certains États et qu'il devrait avoir la possibilité de lancer des défis dans les États où il y a des allégations de fraude. Kristi Noem est la gouverneure républicaine du Dakota du Sud.
Ce que je trouve intéressant, c'est cette déclaration de certaines personnes disant que c'est une victoire écrasante pour Joe Biden. Ce n'est tout simplement pas vrai parce que vous avez un grand nombre d'États qui sont toujours en jeu.
Les dirigeants démocrates ont appelé les homologues républicains à accepter les résultats projetés dans l'intérêt du pays ou de fournir des preuves de la fraude. Chris Coons, sénateur démocrate du Delaware.
Si les républicains veulent soutenir le président Trump dans sa résistance à accepter le résultat des élections, le président doit montrer des faits, pas seulement des tweets colériques.
Le président élu n'entrera en fonction que le 20 janvier à midi. Mais l'équipe de Biden a déjà annoncé qu'elle va commencer sa transition pour diriger le pays en mettant en place dès maintenant un groupe de travail pour lutter contre le COVID-19 qui a fait plus de 230 000 morts aux États-Unis. Les plans pour la prestation de serment du président se poursuivent. Roy Blunt, sénateur républicain du Missouri, est aussi président du comité mixte du Congrès sur les cérémonies inaugurales.
Je m'attends à voir le vice-président Biden et le président Trump sur la scène le même jour de l'inauguration. Et ce sera un message puissant, quel que soit celui d'entre eux qui aura prêté serment ce jour-là.
Après avoir longuement attendu les résultats des élections, la nation est prête à passer à autre chose après une campagne présidentielle âprement disputée.
Au Tchad, les citoyens ont suivi avec beaucoup d'intérêt les élections américaines. Beaucoup pensent que Joe Biden pourrait apporter des changements dans la politique américaine sur l'Afrique, tandis que d'autres pensent qu'il n'y aura pas une grande différence dans les relations entre le Tchad et les États-Unis. Voici des réactions dans un reportage de notre correspondant à N'Djamena, André Kodmajingar.
Très favorable à Joe Biden parce que nous sommes dans la même idéologie politique, nous militons pour lui, nous mettons tous nos poids dans la balance pour que Joe Biden soit
Le sociodémocrate tchadien Max Kamkwe. Pour lui, l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche est bénéfique pour les Africains sur plusieurs plans.
Puisque c'est quelqu'un qui a déjà sillonné l'Afrique à plusieurs reprises, c'est pas seulement que les démocrates africains ou les sociodémocrates africains qui pourront en bénéficier, mais c'est l'Afrique tout entière qui aujourd'hui bute à un problème d'alternance sévère. Le renouvellement du personnel politique, le renouvellement des dirigeants, vous pouvez voir ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous pouvez voir ce qui s'est passé en Guinée, et d'ici bientôt au Tchad. Et donc, mieux, un démocrate au pouvoir veillera au grain et fera en sorte que la démocratie puisse avoir pion sur rue en Afrique.
Abdraman Diasnabaï, homme politique, membre de la majorité présidentielle, estime que l'élection de Joe Biden offre une nouvelle perspective pour les Africains.
En tant qu'Africain, je souhaite quand même qu'il y ait une ouverture plus large. Moi, depuis un certain temps, on a senti une certaine restriction vis-à-vis d'un certain nombre de pays, notamment en Afrique. Nous, le Tchad, nous avons connu notre part avant que la mesure soit levée. Donc, je pense que cette élection des démocrates puisse nous permettre de mieux coopérer avec les États-Unis d'Amérique. De toute façon, ce ne sera pas la même politique que ce qu'on vient de connaître.
Mais M. Léopold, un citoyen tchadien, ne partage pas cet avis. Pour lui, il faut que les Africains en général et les Tchadiens en particulier soient réalistes.
Nous, Africains, nous avons beaucoup plus tendance que tel devient président de la République. Bon, celui-là va aider l'Afrique. On a pensé comme ça au temps de Barack Obama. Obama nous a prouvé que nous devrons compter sur nous-mêmes. Donc, sur ce point-là, il ne faudrait pas que les Africains ou les Tchadiens que nous sommes pensent que l'élection d'un président américain apporterait quelque chose à leur pays. Trump essaie de nous dire les quatre vérités. À nous, Tchadiens, par exemple, et ce n'est que normal. Mais croire que nous allons rester croisés les bras et attendre que les États-Unis doivent tout faire pour nous, là, c'est trop demandé.
Réaction similaire du côté du coordonnateur national du mouvement citoyen, l'OTAN, Kembadjida Alain. Toutefois, il nuance ses propos.
Avec l'avènement de Trump, il y a une remise en cause de plusieurs traités. Aujourd'hui, avec l'arrivée de Joe Biden, nous avons déjà l'accord sur le climat où Joe Biden a décidé de re-signer. Il y a également l'Organisation mondiale du commerce, entre autres, qui sont des conventions que Donald Trump a décidé de remettre en cause. Et nous espérons que les États-Unis, en tant que leader mondial, puissent jouer sa partition dans la promotion de la démocratie pour permettre effectivement qu'on puisse connaître la paix dans le monde et le progrès.
Beaucoup de Tchadiens souhaitent que les relations entre les États-Unis et l'Afrique se renforcent sous la nouvelle administration. André Kodumadjingar Ndjamena pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Mali, la présidentielle américaine a aussi été suivie de très près. Dès le 3 novembre, tout le monde suivait les médias afin d'avoir la bonne info.
Un reprise. Le président est très heureux.
Il y a 104 millions de voix entre lui et le président sortant Trump. Il devient président dans une Amérique hyper divisée. Parce que Trump a choisi de faire une politique nationaliste où il est allé chercher ceux qui d'habitude ne s'impliquaient pas dans la politique.
Pour le chroniqueur politique, non moins journaliste indépendant, la défaite de Donald Trump n'est point une surprise. Moussa Boli.
Qui a réussi à se mettre à dos aussi bien une partie de l'électorat américain ainsi que la communauté internationale, parce qu'à part son soutien au sionisme en Israël, je ne vois pas de pays qui peut dire qu'il a été respecté en tant qu'État par Donald Trump. Joe Biden, on espère, va réussir à améliorer les relations des États-Unis avec le reste du monde, même s'il ne faut pas trop s'attendre aussi à un changement notable de la politique étrangère américaine, parce que comme il a dit, c'est un président élu d'abord pour les États-Unis, il ne faut jamais l'oublier.
Le président du réseau malien d'appui au processus électoral trouve que le vote par correspondance et par anticipation ont été favorables aux candidats démocrates. Dramane Diarra.
Ces modes de vote qui ont été favorables aux démocrates singulièrement ont été rendus opportunément nécessaire par la crise du COVID-19. Aussi, j'ai noté qu'aux États-Unis, la proclamation se fait par la presse. Également, je note que la justice n'est sollicitée que lorsque les résultats sont très, très, très serrés. Pour ce qui concerne l'élection de Joe Biden, un démocrate, ça va marquer le retour des États-Unis d'Amérique dans la communauté mondiale, donc dans le concert des nations.
L'élection de Kamala Harris comme vice-présidente est saluée par Kumbaba, une femme leader.
C'est l'élection aussi historique de la première femme en tant que vice-présidente des États-Unis. Donc nous la félicitons, Kamala Harris, pour tout ce qu'elle a eu à faire jusqu'à aujourd'hui. Je pense que ça donne une lueur d'espoir pour toutes les femmes de par le monde. C'est quand même quelque chose de salutaire.
Si la bataille juridique annoncée par les Républicains n'aboutit pas, d'ici le 8 décembre, période de sécurité en matière de litige électoral aux USA, Joe Biden sera investi le 20 janvier prochain, 46e président américain. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde Aujourd'hui. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. À très bientôt et bon courage.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Il y a 5 ans, les forces de sécurité birmanes se sont lancées dans une campagne de violence et de nettoyage ethnique contre la population de l'ethnie musulmane Rohingya. Certaines attaques ont eu lieu entre octobre 2016 et janvier 2017. Une deuxième vague a débuté en août 2017. Plus d'un million de Rohingyas ont fui la Birmanie. Aujourd'hui, quelques 860 000 réfugiés Rohingyas vivent dans un camp à Cox Bazar au Bangladesh. 150 000 autres vivent dans d'autres pays de la région, dont l'Inde, la Thaïlande, l'Indonésie et la Malaisie. Environ 600 000 Rohingyas sont toujours en Birmanie et sont confrontés à une discrimination systémique. Plus de 130 000 sont des personnes déplacées à l'intérieur du pays qui ont été confinées dans des camps, principalement dans l'état de Rakhine. Le 22 octobre, les États-Unis ont co-organisé une conférence virtuelle sur le thème « Appuyer le soutien international à la réponse aux réfugiés Rohingyas » afin d'encourager d'autres pays à donner généreusement en faveur de la crise actuelle. Il s'agissait aussi, pour les États-Unis, de réaffirmer leur soutien aux Rohingyas et au Bangladesh en annonçant près de 200 millions de dollars d'aide humanitaire supplémentaire jusqu'à la fin de l'exercice 2020, ce qui porte la contribution totale des États-Unis à cette crise de près de 1,2 milliard de dollars depuis le 20 août 2017. La conférence met en lumière un effort international pour résoudre la crise, a déclaré le secrétaire d'État adjoint Stephen Biegun, qui a co-organisé cette conférence virtuelle avec des hauts fonctionnaires du Royaume-Uni, de l'Union européenne et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Il est essentiel pour nous de répondre aux besoins de ces populations vulnérables tout en redoublant nos efforts pour trouver une solution durable à la crise, a-t-il déclaré. Il a souligné le rôle du gouvernement birman dans la création de conditions propices au retour volontaire sûr, digne et durable des Rohingyas en Birmanie. Dans un premier temps, la Birmanie doit accorder un accès humanitaire sans entrave et durable aux communautés touchées. Nous continuerons d'être un partenaire avec vous dans cet effort, a déclaré le secrétaire d'État adjoint Biegun. Le secrétaire d'État adjoint Biegun a également noté qu'il fallait faire davantage pour s'attaquer aux causes profondes de la violence dans l'État de Rakhine, notamment en coopérant pour mettre fin au trafic d'armes et des stupéfiants qui ont permis à la violence d'État et à l'instabilité de perdurer. En tant que dirigeants, nous mettons l'accent sur notre réponse internationale au sort des réfugiés Rohingyas au Bangladesh et ailleurs dans la région, ainsi que sur les personnes déplacées à l'intérieur de la Birmanie, a-t-il déclaré. Nous tiendrons responsables les auteurs des horribles actions qui se sont produites et nous travaillerons avec la communauté Rohingya pour élaborer des politiques qui reflètent les décisions de votre communauté concernant votre avenir.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.